France Inter. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
16 433 plaintes parvenues sur le bureau de la CNIL, 35% de plus que l'an dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que vous avez très largement trouvé le chemin peut-être de la CNIL, et c'est sans doute un peu ça, que nous commençons très sérieusement à nous inquiéter pour nos données, et c'est peut-être plus là l'explication, voire carrément là. Vous avez tous à un moment, sur une de vos applis, lu quelque chose du genre « Attention, le site a été victime d'une fuite de données, changez votre mot de passe ». Et vous vous êtes demandé « Attends, mince, et mes données alors ?» Et on parle de Pôle emploi, souvenez-vous, on parle des données de la carte vitale aussi, on parle de choses qui sont quand même assez lourdes. Vous voyez aussi arriver l'IA, l'intelligence artificielle avec gourmandise, après tout, il n'y a pas que du mauvais là-dedans, mais l'IA est aussi gourmande en données. Alors, est-ce que les miennes sont suffisamment protégés et comment? On a même parlé à un moment, on verra ce qu'il en est, d'assouplir un certain nombre de règles européennes pour pas freiner le développement l'IA et nous faire dépasser par les Américains ou par les Chinois. Où en sommes-nous et qu'est-ce que ça veut dire surtout? Vous avez entendu parler bien sûr de la vidéosurveillance algorithmique pour veiller à notre sécurité pendant le JO, mais est-ce qu'on a ouvert une boîte de Pandore? Qu'est-ce qui nous assure qu'on ne va pas conserver ce système de surveillance ad vitam ou même passer à la surveillance faciale? Est-ce qu'il y a des outils puissants, efficaces, qui peuvent une bonne fois lutter contre l'accès de nos enfants au porno? Voilà un éventail des questions qui concernent la CNIL et en font un organisme, une autorité indépendante qui doit nous aider à nous protéger. C'est même son rôle, sa présidente est là pour nous. Elle s'appelle Marie-Laure Denis. Bonsoir.
Bonsoir Fabienne Synthèse.
Et merci beaucoup d'être avec nous. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Benoît, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Oui, bonsoir Fabienne Synthèse, bonsoir
France Inter.
Ben, merci pour la qualité de vos émissions. Donc, je permets de m'intervenir dans votre émission que je me suis victime d'une entreprise qui s'appelle Asfam, alors que j'avais rien donné au niveau de mes données personnelles. Et du jour au lendemain, je découvre que j'ai souscrit une assurance à l'ASFAM et que je me suis retrouvé avec des prélèvements douteux, presque 300, 400 euros par mois, et puis ben un préjudice de 5000 euros en 5 ans, et puis bien sûr porte plainte contre ces sociétés, et puis bien sûr un demande de la CNIL pour effacer les données personnelles. Mmh. Donc voilà.
Et une réponse ou pas, Benoît, de la CNIL?
Pour l'instant, j'ai eu un mail en disant que ça allait être prendre en charge pour la suppression de mes données personnelles, sauf que je suis pas le seul à être victime de ce genre de choses. Mmh. Parce que là en ce moment, vu qu'il se passe dans l'activité de cette entreprise, et ben là, ça recommence de plus en plus et je vois que c'est de pire en pire.
Merci. Donc, voilà. Merci pour cette entrée en matière, Benoît, et pour ce cas très précis, Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL. Comment on fait quand on est Benoît, qu'on est victime d'une entreprise, d'un phishing, enfin peu importe finalement comment s'appelle l'entreprise au final, parce que ce sont des méthodes qui sont désormais, hélas, assez connues. On voit bien qu'on est en train de se faire pomper son compte en banque. Comment on fait?
Visiblement, les données de Benoît ont été subtilisées à l'occasion d'une cyberattaque, comme ça arrive beaucoup. Et quand il y a des données personnelles et qui parfois sont vraiment identifiantes, comme par exemple un numéro de sécurité sociale ou d'autres, ou une carte d'identité, ça peut permettre très concrètement d'ouvrir un compte à votre insu, en quelque sorte, ou de souscrire à votre insu aussi une assurance. Et donc, la CNIL, en tout cas, a la possibilité de vous permettre de consulter un fichier concrètement des comptes bancaires ou assimilés. On a reçu 20 000 demandes en ce sens recevables l'année dernière. C'est 3 fois plus en un an, pour vous dire que l'enjeu...
Ça veut dire que c'est la mode, pardon de le dire comme ça, mais ce genre d'arnaque, et que ça marche très bien, surtout.
Voilà, ça marche très bien. En plus, on a créé un téléservice pour que ça soit beaucoup plus facile pour les gens de nous saisir. Et très concrètement, ça nous permet de répondre aux personnes en leur disant « bah oui, voilà votre liste de comptes en banque, et regardez, ou d'assurance, et il y en a un... »
Mais si cette boîte n'existe pas, concrètement, en fait, si c'est quelque chose qui a été effectivement créé pour pouvoir pomper les comptes des gens, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on sait, est-ce que vous avez avez ces plaintes-là et vous les transmettez, comment ça se passe pour que quelque chose se passe derrière et que Benoît puisse récupérer son argent?
Alors c'est à Benoît de porter plainte, hein, très concrètement, et nous on facilite, on donne beaucoup de conseils aux particuliers auxquels ça arrive. On leur suggère d'ailleurs d'aller voir le site de cybermalveillance.gouv.fr dont la CNIL fait partie, qui est un organisme gouvernemental qui donne un certain nombre de conseils et parfois même des plaintes en ligne qui sont pré-formatées en quelque sorte. Et puis on délivre, outre le fait qu'on va s'occuper de la question de l'effacement des données de votre auditeur, on a un certain nombre de conseils à délivrer qui est d'avoir une vigilance sur le temps long en fait par rapport à ces tentatives de hameçonnage et un certain nombre de conseils pratiques aussi.
En tout cas, ce qui est intéressant, vous avez cité un chiffre, plus de 20 000, c'est quand même colossal. En fait, ça veut dire que non seulement ça marche, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont organisés aujourd'hui pour créer ce genre de fausses boîtes. Vous parlez dans le rapport de cette année de 16 433 plaintes. Je me demandais à notre audition si c'est simplement parce que les gens connaissent le chemin pour aller jusqu'à vous, ce qui est déjà une bonne chose, ou si c'est vraiment qu'il y a... on est là dans une période de recrudescence de ce genre d'escroquerie, qu'il faudra être de plus en plus vigilant, et surtout pour vous d'ailleurs, que vous ayez même, je ne sais pas, peut-être même des pouvoirs étendus. Est-ce qu'on est rentré là dans une période particulière?
Oui, je pense que le contexte est particulier avec une cybercriminalité qui est des réseaux criminels qui sont de plus en plus organisés et qui, vous voyez, font du chalutage en fait sur les données. Benoît n'est pas une institution, non, c'est pas France Travail ou des mutuelles, etc., dont on pourrait penser qu'elles doivent être en premier, en quelque sorte, ciblées par la criminalité. Ça veut dire que tout le monde peut être ciblé et que tout le monde doit avoir une vigilance sur le temps long. Et indépendamment de l'accompagnement qu'on propose aux particuliers ou aux entreprises qui doivent nous notifier pour les entreprises les violations de données les plus sensibles, parce que dans ces cas-là, on peut leur demander d'informer les personnes, justement, on a aussi la possibilité, très concrètement, de faire des contrôles et de prononcer des sanctions.
Après, Marie-Laure Denis, ce que j'ai trouvé intéressant l'éventail en fait, de ces plaintes, c'est qu'il y a beaucoup de préoccupations sur ce qu'on fait de nos données personnelles, de ce qu'on fait l'administration. Donc on sent aussi derrière à la fois une meilleure vigilance des gens, mais aussi plus de défiance, y compris vis-à-vis des institutions, parce qu'on parle de ce qu'on fait de nos données quand on les inscrit sur un carnet de santé, sur des tas de choses de ce genre-là. Est-ce que vous sentez aussi qu'il y a maintenant une espèce de défiance et qu'on demande même à l'État, attendez, qu'est-ce que vous me prenez, qu'est-ce que vous mettez dans les fichiers, qu'est-ce que vous savez de moi?
Oui, d'ailleurs, je pense que l'État, qui fait des efforts, objectivement...
Et gagnerait à plus de transparence, diriez-vous?
Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de dissimulation, mais l'État, comme les entreprises, est ciblé, et peut-être même plus que d'autres acteurs, pour le coup, par, non pas de la cybercriminalité uniquement, mais aussi par d'autres États qui entreprennent des actions malveillantes dans un contexte géopolitique avec des tensions exacerbées.
Moi, j'ignorais qu'il y avait un fichier qui s'appelle le fichier FICOBA, et je l'ignorais parce que c'est un fichier pour les surendettés, les gens qui ont été à un moment surendettés. Et il y en a beaucoup qui se demandent, c'est ce que vous dites dans votre rapport, attendez, je l'ai été à un moment, effectivement, j'ai été interdit bancaire, donc effectivement, j'ai été fiché comme tel, est-ce que je le suis toujours? Est-ce que quelqu'un peut savoir autour de moi que je l'ai été? Est-ce que vous pouvez répondre à ce genre de questions si quelqu'un vous appelle là-dessus?
Oui.
Et surtout, est-ce que je peux aller moi chercher si je suis encore dans certains fichiers?
Alors, vous ne pouvez pas le faire directement, c'est bien pour ça qu'il faut passer par un tiers de confiance, en quelque sorte, qui est la CNIL. Et en l'espèce, c'est un fichier des incidents de crédit de paiement. Si vous êtes à découvert plus de 2 mois de suite, par exemple, ou que vous n'avez pas remboursé des crédits, vous êtes inscrit sur ce fichier.
Déjà ?
Et le rôle de la CNIL, oui, je vois que vous êtes un peu inquiète,
Fabienne.
Mais ouais,
à découvert 2 mois de suite, sérieusement, parce que c'est rien, tout le monde est à découvert 2 mois de suite.
Mais à l'inverse, il y a un certain nombre de règles, ce sont des fichiers qui sont gérés notamment par la Banque de France, etc. Il y a un certain nombre de règles qui veulent que dès que vous avez justement, vous n'êtes plus à découvert, vous avez remboursé votre crédit, il n'y a plus de raison au bout d'un certain temps, en tout cas, de figurer sur ce fichier. Et donc la CNIL s'assure que ces règles sont respectées, notamment que vous n'êtes pas inscrit trop longtemps.
C'est combien le certain temps, sur celui-là comme sur un autre, d'ailleurs, peu importe, mais c'est combien, quel est le certain temps où je ne dois plus apparaître sur aucun fichier?
Alors, je crois que les données sont conservées pendant quelques années, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, je crois que c'est 5 ans même, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas
recontracter
un prêt, etc. Voilà.
Lise est avec nous. Bonsoir, Lise.
Bonsoir.
On vous écoute, Lise.
Merci de cette occasion pour de parler avec la présidente de la CNIL. Et alors ma question, c'est est-ce que la CNIL travaille sur des projets qui concernent le consentement des enfants qui sont exposés sur les réseaux sociaux par leurs parents? Parce que voilà, parfois je me pose des questions si il pourrait y avoir, quand on voit des abus, si on pourrait s'il y a des recours, s'il y a des choses voilà que la CNIL pourrait permettre de peut-être d'identifier des abus.
Merci beaucoup, Lise, parce que c'est une vraie bonne question. Alors, on parlera après, effectivement, du danger auquel sont exposés les enfants sur certains sites, Marie-Laure Denis, mais on en voit tellement des enfants sur les réseaux sociaux postés par leurs parents. À un moment, est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer ça aussi et se dire, il doit y avoir un consentement des enfants pour être sur les réseaux sociaux?
Mais
sur le compte des parents.
Sur le compte des parents, d'accord. Oui, inverser en quelque sorte la logique.
Après tout. Non, mais parce qu'il paraît aussi, franchement, que c'est sur ce genre de site, y compris sur Insta et ailleurs, avec des photos d'enfants, que se servent les pédocriminels. Enfin, je veux dire, parce qu'on voit des photos d'enfants en très bas âge, etc.
Mais tout à fait. Je partage entièrement la préoccupation de Lise. Il y a une étude britannique qui date de 2018, mais je pense que les choses n'ont pas dû s'améliorer, qui dit que les parents ont en général posté sur les réseaux sociaux 1300 photos de leurs enfants de moins de 13 ans, quand ils arrivent à l'âge de 13 ans. Avec naturellement tous les risques qui sont engendrés, parce que l'image de vos enfants peut être détournée à des fins malveillantes.
Exactement.
La publication d'une image peut révéler beaucoup d'informations sur votre enfant, ses centres d'intérêt, ses centres de vie, la localisation et l'heure à laquelle l'image a été prise. Et donc les bonnes pratiques à adopter, c'est de privilégier le partage par messagerie instantanée, en fait, par mail, par MMS.
Donc, partager à vos amis, mais pas sur les réseaux sociaux.
Exactement. Pensez, c'est ce que vous suggériez, de demander l'accord de votre enfant, parce que c'est lui, après, qui en est la première victime, y compris des colibets, de ses camarades, le cas échéant, et de l'autre parent, pour ceux des parents qui sont séparés. Évitez le partage de certaines photos et vidéos et cachez le visage de votre enfant. Et sécuriser vos comptes et réduire la visibilité de vos publications. Et moi, je crois beaucoup sur la protection des mineurs sur Internet, à un dialogue entre parents et enfants. Et d'ailleurs, les enfants peuvent aussi apprendre, je pense, un certain nombre de choses à leurs parents ou à leurs grands-parents.
Est-ce que très souvent, quand ils commencent à avoir 13 ou 14 ans, ils ont très souvent leur propre portable ou leur propre ordi. Quand ils sont plus jeunes, pas forcément utilisent celui des parents. Est-ce qu'on peut maîtriser sa vie numérique quand on est un petit gamin, ou est-ce que les plateformes aujourd'hui sont suffisamment fortes, et vous avez pu le voir, pour se rendre compte quand ce sont des enfants qui ont la plateforme en main, en gros, et que donc ensuite les publicités qui viennent, les sollicitations qui viennent, etc., sont directement à destination de l'enfant qui réutilisera probablement le portable de ses parents?
Alors nous, on travaille en lien avec l'ARCOM, qui est le régulateur de l'audiovisuel et du numérique.
On connaît bien
aussi.
L'ARCOM.
Voilà. Oui, j'imagine. On travaille avec l'ARCOM en lien avec les plateformes à ce que elles aient des mentions d'information à l'égard des enfants, notamment qu'ils soient adaptés à leur âge, avec de la transparence sur l'utilisation qui est faite de leurs données. Et nous, à la CNIL, on a même créé des ateliers pour mettre en contact des enfants et des designers d'interface pour que ça soit plus transparent. Mais il y a un droit qu'ont les enfants et les parents qui doivent connaître, c'est le droit justement de demander l'effacement des données. Donc il faut le demander concrètement au réseau social, et si le réseau social au bout d'un mois ne vous a pas donné raison, vous pouvez saisir la CNIL, et nous on a un canal privilégié naturellement de communication avec ces plateformes, et très largement on obtient en général
rapidement,
l'effacement.
Vous pouvez effacer rapidement ?
Oui, franchement on obtient l'effacement rapide de ces données, de même que parfois des déréférencements, c'est-à-dire un lien qui correspond à votre nom dans le cadre d'une recherche sur un moteur de recherche. Mais voilà. Mais paradoxalement, je trouve qu'on ne reçoit pas assez de plaintes dans les 16 000 plaintes que vous mentionniez, qui concernent les enfants. C'est 1%. Ce qui prouve qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire à l'égard des parents et des enfants dans ce domaine. Et j'ajoute qu'il y a un autre point important, c'est qu'à partir de juillet 2024, il va y avoir un contrôle parental gratuit, activé par défaut sur tous les équipements qui permettent de se connecter connectés par Internet, les téléphones, les consoles de jeux vidéo, etc. Et qu'il faut absolument, je pense, promouvoir.
Est-ce que ce sont des outils techniques qui peuvent suffire à un moment, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas la clé pour ça, à empêcher les enfants, en très bas âge notamment, d'aller sur les sites pornographiques? Est-ce qu'on les a, ces outils-là, au moins? Alors encore une fois, quand on commence à avoir 13 ou 14 ans et qu'on a la maîtrise de son propre appareil, c'est une chose, mais on sait très bien que l'accès au porno, c'est beaucoup plus jeune que ça. Donc est-ce qu'on les a, ces outils-là, qui empêchent d'aller aux enfants d'aller si facilement? Est-ce que ce serait finalement beaucoup plus simple que ça en a l'air?
Alors il y a un tiers des enfants, d'après ce qu'on sait, de moins de 12 ans, qui ont déjà eu accès à des contenus pornographiques sur Internet. Il y a des outils imparfaits, mais qu'on peut utiliser dès maintenant, imparfaits parce qu'ils peuvent pas permettre à un enfant de 17 ans potentiellement d'accéder à un site porno, mais c'est la carte bancaire, c'est-à-dire exiger de fournir une carte bancaire avec une transaction à 0 euro ou 1 euro.
Ce qui n'est pas le cas pour
l'instant. Avec un tiers de confiance, ouais, ce qui n'est pas le cas. Mais ça fait 2 ans que la CNIL, qui pourtant est sensible à la question de la sécurité d'un numéro de carte bancaire, etc., dit que compte tenu de l'enjeu pour articuler la protection de l'enfance et la protection de la vie privée, c'est un outil dont on doit se saisir dès maintenant, de même qu'il existe des techniques d'estimation d'âge du visage qui permettent de voir que quelqu'un a 12 ans, alors si c'est 17 ou 19 ans, c'est plus compliqué. Mais donc, il y a des solutions certes imparfaites, mais qui permettent de freiner l'accès aux sites porno des plus jeunes enfants. Et puis la CNIL a proposé une solution plus robuste qui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui permet juste de prouver au site pornographique qu'on a plus de 18 ans sans qu'il ait votre identité. Et c'est une solution qui, avec l'ARCOM, qui est responsable de prescrire en quelque sorte les règles techniques pour les sites porno après avis de la CNIL. C'est une solution qui est en train d'être expérimentée.
Mais Marie-Laure Denis, avant de retourner au standard et finalement autour d'une question un peu connexe, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire nous, qu'est-ce que peut faire la CNIL et même l'ARCOM à notre niveau quand ces sites-là de toute façon ne sont pas hébergés en France, ou même quand on a affaire à des ersatz de YouTube, etc. Est-ce qu'on a vraiment la main là-dessus quand ce sont ces sites-là qui peuvent ouvrir à l'accès à une carte d'identité ou autre chose?
Alors je crois qu'il faudra distinguer effectivement dans le cadre de différentes lois qui sont rentrées en vigueur récemment ou qui viennent d'être adoptées le périmètre des compétences de l'ARCOM qui sera compétente pour les sites français ou pour les sites établis hors d'Europe, sachant que c'est plutôt la Commission européenne dans le cadre d'une autre législation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui s'appelle le DSA, qui sera compétent pour les autres sites porno. Mais on voit bien que c'est quand même à l'échelle européenne d'une certaine façon que la régulation de ces grands opérateurs en réalité.
En tout cas, la même préoccupation de ce que je comprends en vous écoutant et qui peut-être finira par donner quelque chose. On va parler de votre pouvoir, Marie-Laure Denis à la CNIL. Bonsoir Rama. Rama ?
Ah, bonsoir.
On vous écoute.
D'abord, je voudrais réagir à ce que je viens d'entendre. L'histoire de sites porno est une vaste blague. Vous savez très bien que chaque adolescent utilise un VPN, Tor, etc. et que de bloquer un adolescent, voire un très jeune adolescent pour un site porno est une vaste blague, comme ça a été le cas il y a une quinzaine d'années. J'avais simplement laissé un message.
Oui, c'est pour ça que vous êtes là, Rama. Allez-y.
Que, chaque mesure sécuritaire ne recule jamais. Nous le savons. Mm-hmm. Et c'est très inquiétant. Nous n'avons aucun pouvoir réel pour faire appel à la CNIL, car la CNIL a très peu de pouvoir. La CNIL répond à quelques demandes. Imaginez si chaque citoyen appelait pour dire non, je ne veux pas être filmé à tel endroit, dans tel magasin, je veux qu'on efface toutes mes données. Ce serait... La CNIL est complètement dépassée. Mmh. Tout le monde le sait, ce n'est pas un secret.
On va poser la question à sa présidente, Marie-Laure Denis. On va le faire dans l'ordre. D'abord sur ce que disait, pour poursuivre la conversation, ce que disait Rama au sujet des sites porno, le fait qu'on peut de toute façon passer par un VPN, etc. Ce qu'il dit, c'est qu'on court toujours après quelque chose, en fait, Marie-Laure Denis, et qu'on est toujours un peu en retard, en fait.
Mais effectivement, y compris sur nos ados. Je pense que les régulateurs, les parents sont toujours en retard par rapport aux nouveaux usages. C'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras, même s'il y a des moyens de contournement. Et encore une fois, je pense que le dialogue, l'éducation, la sensibilisation, nous concrètement, on va dans des écoles, on a vu depuis 3 mois 3600 jeunes pour diffuser des bonnes pratiques. On a des ressources pour les professeurs dans les écoles s'ils veulent parler de ces sujets de protection des données qui sont accessibles. En tout cas sur cette première partie de la question.
Alors sur ce qu'il dit sur la suite, je trouve ça intéressant parce qu'on va y aller avec certains de nos auditeurs sur ce qu'on est en train de voir en lien avec l'IA, en lien aussi avec les Jeux Olympiques puisqu'on est en pleine histoire de vidéosurveillance algorithmique. Ce qu'il nous dit, Rama, et c'est ce que je disais en introduction sur la boîte de Pandore qui est ouverte ou pas, c'est que de toute façon, chaque mesure sécuritaire ne recule jamais. C'est-à-dire que, en gros, quand on s'est habitué aux vidéosurveillances parce que c'est les Jeux Olympiques, puisqu'elles sont là, on va pas les enlever, pour un autre événement sportif, et puis pour la rue d'une manière générale, parce qu'il y a du monde, etc., etc. Qu'est-ce qu'on répond à Rama, Marie-Laure
Denis ? Non, mais je partage pas le point de vue de Rama, même s'il est certainement peut-être échaudé, et ça peut se comprendre, parce qu'il peut y avoir effectivement un niveau... Finalement, tous les pans de notre vie numérique, maintenant, ne sont plus compartimentés. On peut avoir le sentiment d'être suivi dans sa navigation sur Internet par les traceurs publicitaires, en payant en ligne, parce qu'il y a plus d'espèces ou quasiment pas, etc. En ce qui concerne les Jeux Olympiques, et je ne reviens pas sur le fond, on a quand même prononcé 600 millions d'euros de sanctions en 5 ans, on a, si vous avez maintenant la possibilité de refuser les traceurs dès le premier écran de votre ordinateur, de votre tablette, de votre portable, c'est grâce à la régulation de la CNIL, alors qu'avant on vous proposait que de les accepter, et on fait beaucoup d'accompagnement des entreprises qui essayent globalement, et les administrations aussi, de se mettre en conformité. Mais sur les Jeux Olympiques...
Par exemple, ce qu'on a inventé pour les Jeux Olympiques, pour notre sécurité, on est bien d'accord, c'est ce qu'on appelle désormais la VSA, c'est-à-dire la vidéosurveillance algorithmique. On nous dit, à événements exceptionnels, mesures exceptionnelles, mais qui ne seront pas forcément pérennes. Si je suis Rama, pourquoi est-ce que ce ne serait pas pérenne, après tout ? Est-ce que vous...
Parce que c'est un événement exceptionnel, effectivement, et on peut comprendre qu'il faille articuler des exigences de sécurité particulières pour un événement tout à fait hors norme, et en même temps, des garanties. D'ailleurs, il s'agit, donc je le dis en deux mots de quoi il s'agit, c'est des caméras qui embarquent de l'intelligence artificielle, qui ne permettent pas de vous identifier dans la rue, ça c'est une demande de la CNIL.
Mais qui identifient un comportement particulier.
Mais qui détecte des comportements... suspect, une voiture qui roule en sens inverse, un franchissement de zone interdite, un départ de feu, etc. Et donc l'idée, c'est...
C'est pas de la reconnaissance faciale.
C'est pas de la reconnaissance faciale, c'est pas de l'identification, il n'y a pas de captation sonore, la CNIL y a veillé, a fait des préconisations qui ont été reprises par le gouvernement et par le législateur, et il s'agit d'une expérimentation, et il y a un certain nombre de garanties, c'est pas, si je peux me permettre de parler un peu familièrement, open bar, c'est-à-dire on met autant de caméras qu'on veut pendant toute la durée de l'expérimentation.
Mais c'est,
par exemple, le concert des Black Eyed Peas ou le match PSG-OL uniquement.
Est-ce que ça veut dire, Marie-Laure Denis, que lorsque les Jeux seront terminés, vous, à la CNIL, vous direz et vous demanderez même des comptes, est-ce que cette vidéosurveillance algorithmique a bien été coupée ? Est-ce qu'on a fermé le robinet ? Merci de nous prouver que vous avez bien fermé le robinet. Est-ce que vous allez demander ça très officiellement ?
Mais bien sûr, c'est ce qu'on a fait par exemple pendant toute la période Covid, quand il y a des systèmes d'information ou l'application de traçage numérique dont tout le monde se souvient, tous anti-Covid, la CNIL a fait 5 ans de contrôle et a veillé à ce que toutes les données soient supprimées. Et là, encore une fois, il s'agit d'une expérimentation. Là où je partage la préoccupation de Rama, c'est que je trouve que sur ces enjeux de surveillance dans l'espace public, qui est quand même le lieu où s'exercent des libertés publiques, le droit de manifestation, où on peut savoir si vous allez éventuellement dans un lieu de culte, etc. Il faut pouvoir évaluer très concrètement quel est l'intérêt du déploiement de ces caméras pour la sécurité publique, les risques pour les libertés publiques et si ça marche techniquement parce qu'il y a des biais. Par exemple, si moi je sors un parapluie, la caméra va peut-être lancer une alerte pour dire elle a dégainé une arme.
Donc il y a des biais.
Et dans ces cas-là, heureusement, ça c'est aussi la CNIL qui a veillé et le législateur, il n'y a pas de décision automatique qui est lié à ces caméras. Il y a une intervention humaine, c'est l'opérateur derrière la caméra qui va regarder plus précisément si j'ai dégainé un parapluie ou si j'ai une arme ou si j'ai juste ouvert un parapluie et qui du coup va pas envoyer des forces de l'ordre.
Non, mais est-ce que moi, en train d'ouvrir un parapluie dans une foule, même si ça n'engage pas grand-chose, mais enfin, est-ce que cette image-là risque de se retrouver quelque part ? Je vous repose la question parce qu'il y a Douchka sur WhatsApp qui nous dit ceci. Je voudrais savoir quelles sont les protections de vie privée sur l'utilisation d'images dans la vidéosurveillance, parce que des personnes qui ont fait une blague dans un village voisin, par exemple, ont été filmées par la vidéosurveillance du village et les images se sont retrouvées sur Facebook. Donc comment on fait pour que même moi, avec mon parapluie au milieu de la foule, je ne me retrouve pas ensuite quelque part?
Non, mais ça, c'est tout à fait illégal. D'ailleurs, la CNIL fait une trentaine de contrôles par an, notamment dans des communes. Tout ce qui est vidéosurveillance doit être très encadré. C'est-à-dire que, d'abord, tout le monde n'a pas accès. D'abord, ces données ne sont pas conservées longtemps. Elles doivent être conservées quelques jours et au maximum un mois. En plus, tout le monde ne doit pas y avoir accès, mais juste les personnes habilitées pour ce faire. Vous devez être informé, hein. C'est très important aussi qu'il y a ces vidéos. Il y a au moins des panneaux, etc. Et encore une fois, on revient sur l'évaluation, parce qu'il y a par exemple une étude d'une école de la gendarmerie nationale en 2021 qui dit que les caméras de vidéosurveillance, et là on ne parle pas de caméras dites augmentées, ont servi à élucider 2% à peu près des enquêtes. Tant mieux pour les 2%, mais après il y a une question de proportionnalité en fait. Voilà.
Une note vocale qu'on découvre ensemble, c'est celle de Marie-Alice.
Bonsoir, je voulais mettre en lumière le paradoxe entre le fait de vouloir protéger ses données et en même temps le fait d'accepter assez facilement les cookies lors d'une navigation internet ou lors d'installation d'applications où on nous demande si on peut avoir accès aux médias, à la position GPS, etc. Le fait aussi que le gouvernement demande des documents officiels en ligne, j'ai l'impression que on vous dit qu'il faut protéger vos données et en même temps on vous demande de les mettre à des endroits alors qu'on espère sécuriser mais qui du coup sont susceptibles d'être cyberattaqués. Voilà.
Merci à Marie-Alice pour sa note vocale. Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL. Deux choses. La première, c'est notre grand paradoxe. Effectivement, on demande à être protégé, mais quand on voit arriver la question, c'est la question RGPD, est-ce que vous acceptez, oui ou non? En général, on fait accepter parce que ça va plus vite. On a ce très grand paradoxe, nous, qu'on le veuille ou non, non?
Oui, c'est la même chose dans les sondages par rapport au type de film que vous êtes supposé regarder, ou que vous regardez dans la réalité, d'ailleurs. Hein, tout à fait. Mais en fait, la régulation de la CNIL, elle a quand même permis, je me permets de le dire, avant qu'on fasse cette régulation sur les cookies, sur les traceurs publicitaires, qui permet encore une fois de les refuser dès le premier écran, et qui a été imposée par la CNIL avec des sanctions très lourdes, hein, d'au moins 500 millions d'euros sur les GAFAM notamment. Concrètement, Google, par exemple, si vous allez sur le moteur de recherche ou sur YouTube, dès le premier écran, vous pouvez refuser. Et ce qu'on a fait sur les cookies, on va le faire dans le domaine des applications mobiles, parce que maintenant, le premier vecteur d'accès au numérique, c'est le téléphone portable, et avec les applications mobiles, vous avez toute votre vie privée dedans. L'accès à vos contacts, vos vidéos, votre géolocalisation, votre micro,
et alors,
etc.
Pas seulement, parce que ce que disait Marie-Alice, c'est notamment, et elle a raison, le gouvernement nous incite, l'État d'une manière générale, c'est pas celui-là, c'est le précédent, c'est le prochain, peu importe, nous incite à être beaucoup plus armés numériquement. Regardez aujourd'hui, et moi je l'ai fait, je vais vous dire, on peut mettre sa carte d'identité, on peut mettre son permis de conduire sur son téléphone, ce qui peut nous amener, alors évidemment c'est une aide qui est extrêmement précieuse, mais ça peut nous amener aussi, comme le disait très justement Marie-Alice, si quelque chose est hacké, c'est encore plus catastrophique. Est-ce qu'on peut avoir confiance à 100%? Vous l'avez fait, vous, ou pas?
J'ai pas ma carte d'identité sur mon téléphone portable, mais on file la métaphore du paradoxe, parce que d'une certaine façon, on est aussi heureux que l'État numérise en quelque sorte un certain nombre de procédures. Donc je crois qu'il faut pas opposer non plus nécessaire numérisation des procédures administratives qui peut faciliter la vie de beaucoup de personnes. Il faut simplement que ça soit fait. Vous savez que la CNIL, elle rend une centaine d'avis par an sur des projets de décrets, des projets de loi, des projets d'arrêté. Donc, la plupart des gros projets de l'État, des modifications de la carte vitale, des choses comme ça, il y a un avis de la CNIL, et dans tous ces avis, il y a des aspects qui concernent la sécurité. Et ces avis sont publics, en très grande partie.
Nadine est avec nous. Bonsoir Nadine.
Bonjour à tous, merci de me donner la parole. En fait, ma question est très simple. J'aimerais savoir ce qu'il se passe lorsque nos données ont fuité. Donc, on peut être prévenu, dans mon cas, par ma mutuelle ou par France Travail, c'est ce qui m'est arrivé ces derniers mois. Donc, on est bien informé sur le moment de la fuite, mais je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe ensuite. Quelles sont les suites? On a des préconisations à suivre, mais on n'a pas la suite des événements.
Merci pour votre question Nadine, et j'en rajoute une, Marie-Laure Denis derrière. Comment on peut savoir ce qui nous a été volé ou pas? Est-ce qu'on peut savoir ça lorsqu'on sait qu'il y a eu fuite? Elle parle de France Travail, Nadine, effectivement ça a été le cas. Quand c'est la mutuelle, pareil, ce sont des informations qui peuvent être extrêmement personnelles. Qu'est-ce qui se passe derrière et qu'est-ce qu'on sait de ce qui a fuité?
Alors d'abord, si vous avez été informé suite aux fuites de données personnelles qui concernent des mutuelles, en gros des organismes de tiers payants en février et France Travail en mars, c'est un Français sur deux qui est concerné quand même, compte tenu de la masse des données. Si vous avez été informé individuellement, c'est aussi parce que la CNIL a demandé à ces organismes que vous le soyez individuellement. Parce que justement, ça vous permet d'être vigilant sur les tentatives de hameçonnage, d'usurpation de données que vous pouvez avoir. Moi, j'ai tout de suite diligenté un contrôle sur les deux organismes pour y voir plus clair. Les investigations étant en cours, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais quand les organismes ont communiqué, et nous aussi, on a indiqué quelles étaient les données qui avaient été compromises, et notamment le numéro de sécurité sociale. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Donc après, il y aura potentiellement des mesures répressives qui seront prises.
Coup,
et puis on a donné des conseils aussi à ces organismes.
Mais du coup, on ne sait pas ce qui a fuité.
S'il y a eu une communication quand même pour dire très précisément ce qui concerne France Travail, que c'était les noms, les prénoms, les numéros de sécurité sociale, les identifiants France Travail, les adresses mail et postales, ainsi que les numéros de téléphone. Et on précise en général si c'est des cartes bancaires, si c'est des numéros de cartes bancaires, si ça ne l'est pas, etc. Après, ce sont les organismes qui nous disent ce qu'il en est quand on communique tout au début. Les contrôles et les investigations qu'on mène permettront d'en savoir plus.
Une autre note vocale, c'est celle de Pancho qu'on découvre ensemble.
Bonsoir à l'équipe du Téléphone Sonne, merci pour vos émissions. Moi j'aimerais juste rappeler quelque chose qui s'est passé au TGI de Paris il y a un an de ça à peu près, où des personnes ont été jugées pour fait d'association de malfaiteurs terroristes, et en fait le fait de protéger leurs données a été retenu contre elles et eux. Le fait d'utiliser des messageries cryptées comme Signal par exemple, le fait d'utiliser Linux, donc avec pour objectif de protéger leurs données personnelles, ça a été retenu contre eux comme quelque chose qui était suspect. Voilà, moi je sais pas à quel point on peut faire confiance à l'État français en l'occurrence quand il s'agit de protéger nos données, étant donné que quand on le fait, on se sert de ça contre nous comme de quelque chose à charge, quoi. Bonne soirée à vous.
Bonne soirée à vous aussi, Pancho. Merci beaucoup, Marie-Laure Denis. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de défiance aussi vis-à-vis de l'État, et c'est ce qui vous revient, et c'est ça le message que nous envoie Pancho.
Oui, alors je ne peux pas me prononcer sur le cas particulier. En revanche, à la CNIL, c'est vrai qu'on est plutôt favorable naturellement aux messageries chiffrées d'un bout à l'autre. Tout ce qui permet de protéger justement vos données.
On a Ange qui nous suit sur WhatsApp et qui dit « Je viens de faire une demande Ficoba dont on parlait tout à l'heure. » Et qui dit « Ça fonctionne très bien, nous dit-il. Je viens de voir aussi qu'on pouvait faire une demande d'accès au fichier des renseignements. »
Oui, pour savoir si vous êtes fiché, parce qu'il y a un certain nombre de personnes, par exemple, qui demandent, qui sont candidats à un emploi, ou qui se font et qui n'obtiennent pas cet emploi, ou qui se font arrêter assez régulièrement lorsqu'ils voyagent à l'étranger au poste de douane ou de frontière, et qui se disent, c'est peut-être parce que je suis fiché dans un des fichiers de la sécurité. Et dans ces cas-là, là aussi, vous pouvez saisir la CNIL, qui très concrètement vérifiera en tout cas si vous l'êtes et si vous
êtes. Pour dire les choses très concrètes.
Et concrètement, on envoie des membres du collège de la CNIL vérifier sur place.
Et pour dire les choses très concrètement, sur des choses qui vont vraiment parler aux gens, je peux aller regarder si je suis fiché S ou pas, par exemple.
Vous pouvez demander à la CNIL de vérifier si vous êtes fiché S, mais la CNIL ne vous dira pas en général si vous l'êtes ou si vous ne l'êtes pas, mais en tout cas elle vérifiera que les mentions qui sont dans les fichiers le sont à juste titre. Voilà.
Anne, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Anne.
Alors, moi, je voudrais poser une question, parce que je me la suis posée moi-même. J'ai voulu m'inscrire récemment à des sites de streaming, et ils me demandent, alors je ne donnerai pas de nom, mais enfin bon, et une ou deux fois, alors le site était gratuit, mais ils voulaient avoir mon numéro de carte bancaire, me disait-il, pour me géolocaliser. Donc, je voudrais savoir, d'une part, si c'était fiable, et d'autre part, pourquoi est-ce que le numéro de carte bancaire peut servir à vous géolocaliser ?
Eh ben, voilà. Vous avez bien raison de poser la question, Marie-Laure Denis, ça sent pas bon, cette histoire. Un numéro de carte bancaire pour géolocaliser, c'est quand même très herbie, non ? Très
bizarre. Oui, d'abord, je vois pas très bien le lien entre la carte bancaire et la géolocalisation, donc il y a de quoi, effectivement, avoir des doutes. D'une façon générale, vous voyez, le rôle de la CNIL, c'est vraiment de s'assurer qu'il y ait de la transparence justement sur l'exploitation qui est faite de vos données. Et ça pose peut-être la question de la monétisation des données. C'est-à-dire que les données des internautes, elles sont depuis longtemps utilisées par les acteurs du web pour financer les services.
Il y a même une question d'un auditeur qui dit pourquoi on ne rémunérerait pas les gens qui acceptent de donner toutes leurs données, comme ça au moins on les donne, mais on sait que ça sert à quelque chose. Ça existe déjà d'ailleurs, non ? Ça n'existe pas ?
Non, alors il faut bien distinguer, en tout cas en France et en Europe, ça peut pas être le cas. C'est-à-dire que les données, elles ont une valeur d'usage, elles sont valorisées, vous acceptez qu'elles soient utilisées pour de la publicité ciblée, par exemple. C'est une forme de valorisation de la donnée qui est légale. Mais en ce qui concerne la valeur patrimoniale, les modèles économiques dans lesquels la donnée n'est plus la contrepartie du service ou d'avantage, mais sert directement à gagner de l'argent, sont illicites. Par exemple, vous n'allez pas dire à votre médecin, ou votre médecin ne va pas vous dire « moi, la consultation est moins chère, à condition que je puisse récupérer vos données médicales qui ont de la valeur parce que vous avez des droits sur ces données que vous ne pouvez pas lâcher. Vous pouvez devoir consulter votre dossier médical, par exemple. Et ça, c'est vraiment une approche européenne, contrairement à une approche américaine qui est plus tournée vers le consommateur.
Alors justement, tiens, en parlant d'approche européenne, avant de retourner au standard, très récemment, la Commission de l'intelligence artificielle, qui a été formée par Matignon, a demandé en gros à assouplir un certain nombre de contraintes qui encadrent les données, et notamment liées au RGPD, pour pouvoir développer l'intelligence artificielle, parce que ça crée un certain nombre de freins. Est-ce que ça veut dire que RGPD et IA sont incompatibles? Est-ce que ça veut dire surtout que ce qu'on vous demande en creux à vous, la CNIL, c'est mettez de l'eau dans votre vin, parce que sinon on ne pourra pas développer l'IA? Chacun sait que l'intelligence artificielle se nourrit de nous et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc est-ce qu'on vous a demandé de mettre la pédale douce ou pas?
Non, on ne nous a pas demandé de mettre la pédale douce. D'ailleurs, ça serait impossible, parce qu'il y a un texte européen qui s'appelle Règlement général sur la protection des données qui n'a pas disparu.
Mais qui est compatible avec l'IA ou pas?
Il y a des tensions, effectivement. Je crois que vous posez une très bonne approche. C'est-à-dire que nous, on a tendance à dire il faut consommer, il faut exploiter le moins de données possible pour un usage particulier, les conserver le moins longtemps possible. Et pour faire de l'IA, c'est tout l'inverse en quelque sorte. Donc toute l'approche de la CNIL, c'est non pas de freiner l'innovation, mais de l'encadrer, de poser des garanties à un moment où ça vaut encore le coup parce qu'elle se développe.
Donc si on vous dit, attendez, il faut simplifier vos procédures, Madame la CNIL, vous vous dites, il n'est pas question pour l'instant de simplifier mes procédures, ça a été ça votre réponse ?
Non, mais notre réponse, elle est beaucoup plus pratico-pratique, c'est-à-dire que là, on vient de publier des conseils pratiques pour les gens qui développent de l'IA sur la façon dont ils doivent conserver les données, de quel type de données. En réalité, même ces acteurs-là de l'IA, ils ont intérêt à avoir des données qui soient pertinentes, qui soient pas doublonnées, qui soient précises, etc. Donc ils ont un intérêt aussi qui est convergent avec celui de la CNIL.
Très rapidement, malheureux Denis, François, pardon, j'ai pas le temps de prendre votre question, je vais la lire. Quand j'étais au RSA, je me suis rendu compte que l'organisme social traquait mes dépenses sur mon compte bancaire. Et la CNIL dans tout ça, nous demande François, est-ce que c'est possible de faire ça, de traquer les dépenses de quelqu'un qui est au RSA ?
En tout cas, nous, on a lancé tout un programme de contrôle, de lutte contre la fraude, notamment l'année dernière, et qui est encore en cours, contre les organismes qui versent des prestations sociales, et notamment à la CNAF.
Et donc, on ne traque pas les dépenses des gens qui sont au RSA. Merci beaucoup. On pourrait se parler encore bien longtemps. Il y a encore plein de questions. Et c'est tant mieux. Merci beaucoup, vraiment, d'avoir été avec nous.